journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, 9e condamnation à mort d'un ressortissant français par la justice irakienne pour appartenance à l'organisation État islamique. La démission de la présidente des sociaux-démocrates allemands, Andrea Nahles. La riposte de Pékin aux salves commerciales américaines, riposte économique et politique. L'hommage de la productrice des nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett, à Michel Serres, décédée hier soir à l'âge de 88 ans. Et enfin, la face cachée du Globe, signée ce dimanche Nadine Epstein. La justice antiterroriste irakienne enchaîne les audiences et ses magistrats viennent de prononcer de nouvelles condamnations à mort à l'encontre d'un 9e ressortissant français pour appartenance à l'organisation État islamique. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Christian, 9e condamnation en une semaine avec encore et toujours cette question de l'équité de ces procès.
Oui, le premier djihadiste s'appelle Fadil Tahar Aouida, 32 ans. Il a été reconnu coupable d'appartenance au groupe État islamique. Le tribunal a rejeté les allégations selon lesquelles ses aveux auraient été obtenus sous la torture. Le second condamné à mort est un Français d'origine algérienne, Vianney Rouhaghi, 28 ans. Lui a reconnu devant le juge avoir travaillé pour Daesh, mais affirme ne pas avoir participé au combat ni en Syrie ni en Irak. Alors, les avocats de la défense et les ONG dénoncent un système judiciaire abusif et expéditif en Irak. Ainsi, Human Rights Watch assure avoir des preuves que lors des interrogatoires, les services de sécurité ont recours à des techniques de torture qui ne laissent pas de marques durables, comme frapper les accusés sur la plante des pieds ou encore pratiquer des simulacres de noyade. De son côté, le Quai d'Orsay affirme que les ressortissants français sont jugés dans le cadre de procès équitables et que la justice irakienne se fait dans de bonnes conditions. Le ministère des Affaires étrangères qui rappelle que les accusés bénéficient de la protection consulaire. Les deux djihadistes français jugés ce matin ont un mois pour faire appel de leur condamnation.
Merci à vous Christian Chesneau. De lourdes frappes israéliennes en Syrie, principalement sur des positions militaires près de Damas. 10 morts, dont 3 soldats de l'armée régulière et 7 combattants alliés de nationalité étrangère. Une semaine après les élections européennes, une onde de choc qui risque de précipiter la fin de la GROKO, la coalition CDU-CSU-SPD, la démission dans la matinée de la présidente des sociaux-démocrates allemands, Andrea Nahles, fragile depuis le sérieux revers électoral de sa formation. Bonjour David Philippot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
David en direct de Berlin. David, cette démission peut-elle véritablement avoir des répercussions sur la GROKO ?
En tout cas, l'édifice gouvernemental est clairement fragilisé par cette annonce qui a pris tout le monde par surprise. La chef du Parti social-démocrate a pris sa décision dans la nuit avant d'envoyer ce matin un communiqué à la presse, une vingtaine de lignes pour justifier son départ par le manque de soutien au sein de son parti. Un euphémisme tant la grande explication au lendemain du fiasco des européennes a viré au règlement de compte pour elle. Andrea Nahles a donc décidé d'en tirer les conséquences. Elle démissionnera demain de son poste de chef du parti et mardi de celui du chef de groupe parlementaire. Le Parti social-démocrate s'enfonce ainsi un peu plus dans la crise. Un sondage le donnait même hier à 12% de soutien de la part des électeurs, son plus bas historique, très loin derrière les Verts, qui l'ont détrôné comme deuxième parti d'Allemagne. Le SPD en crise existentielle qui menace du coup d'entraîner à terme le gouvernement Merkel dans sa chute, le parti conservateur. La CDU est lui-même en difficulté. Les deux partenaires de coalition doivent décider cet automne, à mi-mandat, s'ils continuent à gouverner ensemble. Aujourd'hui, ce sont les jours, en tout cas les mois, de la grande coalition qui semble compter.
Merci à vous, David Philippot, en direct de Berlin. Position chinoise sur les consultations économiques et commerciales sino-américaines. C'est l'intitulé du livre blanc de Pékin qui riposte à Washington. La responsabilité de l'impasse reviendrait d'ailleurs aux Américains, selon les officiels chinois présents à Singapour. Bonjour Karine Otten.
Bonjour Mathieu.
Carrie, vous avez suivi ce sommet sur la sécurité dans la zone Indo-Pacifique au cours duquel la Chine ne s'est pas contentée de donner le change à Donald Trump. Carrie Noten, la Chine assume Tiananmen ainsi que sa stratégie sur Taïwan.
Oui, le ministre de la Défense chinois, le général Wei Fanghe, n'a pas mâché ses mots. S'il était envoyé par Pékin pour essayer de rassurer les pays de la zone sur les actions de la Chine qui pouvaient apparaître expansionnistes ces derniers mois, il n'a pas pour autant hésité à marteler la vision du Parti communiste chinois. La place octroyée à Taïwan dans son discours a surpris En longueur, il a réaffirmé que le gouvernement ne tolérerait aucune séparation Chine-Taïwan et que l'armée serait prête à prendre des armes si on s'opposait à ce rapprochement. Concrètement, cela explique pourquoi depuis 4 mois, la marine chinoise a musclé ses réponses dans le détroit de Taïwan et escorté des frégates américaines et françaises, ce que la France voit par exemple comme des eaux internationales. Elle les considère comme des eaux chinoises. Taïwan reste bien donc un détonateur facile à actionner et le général Wei s'est assuré que le message soit bien passé. Une autre surprise, c'est la décomplexion avec laquelle il a évoqué les incidents de Tiananmen. Alors qu'on pensait qu'il lui donnait la réponse à cette question posée, il a finalement, en 3 phrases, résumé la position de Pékin. Encore une fois, c'est une vision assumée connue, mais le fait de le faire à 2 jours du 40e anniversaire de la répression massive des étudiants devant une audience composée d'une 30aine de ministres de la Défense montre bien que le parti ne fera pas dévier d'un pouce son idéologie à ceux qui pouvaient encore en douter.
Merci à vous, Karine Hutton, en direct de Singapour. Venons-en à l'évocation de la disparition hier soir à l'âge de 88 ans du philosophe Michel Serres. Quantité d'hommages ce matin, parmi lesquels celui de son éditrice Sophie Bancard aux éditions du Pommier qui invite à jouir de la magie qui consiste à se plonger dans ses livres. Vous pénétrez soudain dans une musique singulière, une chanson de la langue française qu'il pratiquait en savant comme en poète. Il construisait ses livres comme il construisait sa pensée en fouillant toujours plus loin pour faire émerger une idée nouvelle, toujours plus loin. Voilà qui résonne avec l'approche d'Adèle Van Rett, productrice et présentatrice sur France Culture des nouveaux chemins de la philosophie. Elle avait reçu en septembre dernier Michel Serres et nous avons posé à Adèle Van Rett la question suivante. En quoi était-il un libre penseur?
Alors Michel Serres avait cette particularité qui est assez rare en France de ne pas considérer la philosophie comme étant une discipline parmi d'autres, mais comme étant une manière de penser qui est transversale. C'est-à-dire que pour lui, il ne séparait pas la science d'un côté, la littérature de l'autre, l'anthropologie encore dans un troisième côté. Au contraire, pour lui, la philosophie était ce qui s'intéressait à tout de manière méthodologique. C'est-à-dire que c'est vraiment une méthode, ce n'est pas simplement une manière de questionner en l'air les choses, mais toutes les disciplines sont confondues. Et il en fait même l'essence de la philosophie. Le mot-clé pour comprendre sa pensée, c'est la transversalité. Et ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et c'est vraiment passionnant parce que justement, assez rare finalement dans la philosophie occidentale.
Quelles étaient ses références pour bien comprendre sa fabrique?
Alors, justement, la multiplicité des références était ce qui caractérisait. On ne peut pas dire qu'il s'inscrivait dans un seul courant de pensée, mais pour vous donner une idée de son originalité, le penseur qu'il aimait citer en premier, c'était Jules Verne. Donc vous voyez, c'est même pas un philosophe, c'est un romancier. Et dans Jules Verne, disait-il, il avait tout appris, à la fois le goût pour les recherches scientifiques, l'imagination nécessaire pour produire des concepts, et enfin, la curiosité intellectuelle qui lui a donné ensuite d'intéresser à des choses qui jusque-là étaient, disons, exclues du domaine philosophique. Donc, à chaque fois que moi je lui ai posé la question, la première réponse qu'il fournissait, c'était Jules Verne, ce que je trouve toujours assez cocasse.
Alors, il était à rebours du catastrophisme ambiant, il avait été accueilli à l'Académie française sans épée, en signe de paix. On entend ici et là, sur les antennes depuis hier, le mot humaniste. Est-ce que vous adhérez à cette définition?
Oui, mais alors je l'élargirais, parce que humaniste, ça veut dire qu'il tient l'homme comme étant la chose la plus importante sur la planète, avant la technologie, justement, avant la science, avant d'autres choses qui seraient censées lui nuire, même s'il faut nuancer ce jugement, lui accordait beaucoup d'importance à la nature, à l'écologie, et il allait même jusqu'à questionner la nécessité de reconnaître un droit à la nature. C'est quand même, il l'a fait très tôt. En ce moment, c'est une perspective qu'on entend davantage depuis quelques années, mais lui, il a fait ça il y a 15 ans, je crois que c'est au début des années 2000, donc c'est presque 20 ans, où il s'interrogeait sur la nécessité de reconnaître un droit aux arbres, un droit aux fleuves, ce qui a été fait depuis d'ailleurs. Et en ce domaine, comme en beaucoup d'autres, il était précurseur. Et j'ajouterais aussi que non seulement il reconnaissait l'importance de la nature, mais aussi de la technologie. Il faisait pas partie de ces penseurs qui trouvaient que la technologie allait nuire au développement humain. Au contraire, là encore, c'est un des premiers à s'intéresser aux téléphones portables et aux écrans tactiles dans son ouvrage qui est devenu célèbre dessus, qui s'appelle Petite Poussette. La Petite Poussette, c'est le mouvement du pouce des enfants ou même des adultes qui balayent l'écran pour choisir une application ou même composer un numéro. Et bien justement, lui, il a essayé de penser ce phénomène-là au tout début des téléphones portables, et non pas pour les condamner, mais pour dire, ça va changer l'évolution humaine que d'avoir un nouveau mouvement qui vient s'intégrer au mouvement habituel de la main. Et ça donne bien une idée de ce qui était. Donc bien plus qu'humaniste, je trouve, je ne sais pas quel est le terme qui s'applique, mais Il englobait vraiment tous les différents aspects de la vie humaine.
Adèle Van Rett, si vous souhaitez vous plonger ou vous replonger dans l'œuvre de Michel Serres, franceculture.fr avec un dossier complet sur sa trajectoire si riche. D'humanisme d'ailleurs, il est question dans la face cachée du globe que nous présente ce dimanche. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour à vous. En ce moment, en Espagne, à Palma de Mallorca, se tient la 3e conférence internationale sur la sécurité dans les écoles. Aujourd'hui, des dizaines de pays n'ont pas rejoint la liste des 87 États qui ont adopté la déclaration de 2015. Les signataires se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour décourager l'utilisation d'écoles et d'universités à des fins militaires. Dans les zones conflictuelles, les salles de classe sont transformées en champs de bataille. Elles deviennent des bases militaires ou des bunkers ou sont utilisées comme dépôt d'armes, précise Human Rights Watch. L'ONG ajoute que depuis 2013, dans au moins 30 pays en conflit, les établissements scolaires ont aussi été convertis en centres de détention et d'interrogatoire ou en bases de formation de combattants et de soutien à l'effort militaire. Au Japon, les petites boutiques de proximité qui offrent toutes sortes de produits 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 toute l'année, généralement appelées konbini, sont en manque de main-d'œuvre de nuit. Certaines de ces supérettes s'interrogent sur le maintien du service continu. Le reportage à Kyoto de Raphaël Brio.
C'est Mitoshi Matsumoto qui, à 60 ans, a lancé la rébellion. Ce gérant d'une supérette 7-Eleven à Higashi, Osaka, a décidé en février de fermer boutique de 1 à 6 heures du matin. Du jamais vu, car les konbini doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a rappelé la première des chaînes japonaises qui a lancé ce concept en 1974. Mais Mitoshi Matsumoto n'y arrive plus depuis qu'il a perdu sa femme. Il se plaint de la pénurie de travailleurs et de la concurrence de 4 autres 7-Eleven à moins de 200 mètres. Son cas est loin d'être isolé. Les konbini sont 2 fois plus nombreux que les bureaux de poste au Japon, soit 55 000 enseignes, 7-Eleven, Family Mart ou Lawson. Or, dans un pays vieillissant, le marché semble à saturation. Les ventes stagnent, voire chutent, et les propriétaires peinent à trouver des employés qui acceptent de travailler la nuit pour moins de 8 euros de l'heure. À la tête d'un konbini, dans le centre de Kyoto, Takenobu Asada, 53 ans, reconnaît sa fatigue.
Oui, ce n'est pas vraiment facile de recruter du personnel. J'ai beau mettre des petites annonces, mais rien, personne ne se présente. Rares sont les gens qui veulent travailler de nuit. Je ne comprends pas bien pourquoi, même si effectivement c'est fatigant. Alors, en attendant de trouver une solution, je n'ai pas le choix et c'est moi qui fais le travail. Mais à vrai dire, j'envisage aussi de fermer la nuit.
Pour calmer les esprits, 7-Eleven promet de ralentir le rythme d'ouverture de nouvelles supérettes. Et Lawson réfléchit à des boutiques sans surveillance humaine, en se fiant à la réputation d'honnêteté des Japonais.
La philanthropie, garante de l'action et de l'efficacité pour un monde plus humain, c'est à quoi adhèrent les 650 associations regroupées dans l'EFC, European Foundation Center, qui célèbre ses 30 ans. La Fondation de France fête, elle, ses 50 ans, tandis que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a déjà 230 ans. Mettre en pratique ces valeurs humanistes, Frédéric Bedos le réalise avec son ONG et son projet Imagine.
C'est une ONG un peu unique en son genre, puisqu'il y a 10 millions d'ONG dans le monde et c'est la seule ONG d'information. L'idée, c'est d'inspirer les spectateurs en leur montrant des films qui vont leur donner l'envie d'agir. Et une fois qu'ils ont envie d'agir, eh bien, on les accompagne sur le terrain, vers l'action, avec des programmes dans les écoles, dans les prisons, dans les villes, dans les entreprises. Et l'idée, c'est de faire émerger un grand mouvement d'action, d'engagement citoyen. C'est un pari fou, hein. On va bientôt fêter nos 10 ans. J'ai commencé from scratch, comme on dit. J'avais pas d'argent, pas d'équipe, pas de matos. J'ai fait le premier film avec une caméra empruntée, un bénévole et yalla. Et aujourd'hui, on touche des dizaines de millions de spectateurs dans le monde. On est reconnu officiellement par les Nations Unies depuis 2017. Et surtout, eh bien, effectivement, les gens se lèvent. On met en lumière notamment les héros humbles du monde entier, des hommes et des femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur, qui le font souvent dans l'ombre. Donc ils ont l'air d'être des personnes ordinaires, sauf qu'elles font sans cesse des choses extraordinaires qui finalement rendent ce monde plus humain.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la philanthropie ?
Le projet Imagine, c'est un peu le puzzle de ma vie. Et moi, en fait, j'ai eu la grande chance d'être sauvée dans mon enfance par un couple formidable du nord de la France, des gens tout simples. On était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Chaque fois que mes parents croisaient le chemin d'un enfant dans cette situation inextricable, ils avaient le cœur brisé, ils disaient « on ne peut pas le laisser de côté, on le prend ». Et c'est comme ça que la famille s'est agrandie. Eh bien, j'ai vécu avec ces valeurs, j'ai été sauvée grâce à ces valeurs. Et c'est en 2008, d'un coup, cette histoire remonte dans ma tête, dans mon cœur. Et c'est là que, comme une évidence, j'ai réalisé que mes parents étaient des héros. Et c'est comme ça que l'idée de l'ONG a commencé à naître en moi.
L'humanisme.
Et on termine avec Humanisme du Congolais Fally Ipupa.
Et sur ce titre conclusif, quelques mots de la météo de l'après-midi, dégradation par l'ouest en début justement de cette fichue après-midi, température qui reste très élevée. Édition préparée avec Benjamin Ducy à la technique, Pierrick Monsigny.